dans les moments de répit que lui laissait leur délire, Amaranta Ursula répondait aux lettres de Gaston. Elle le sentait si éloigné et si occupé qu'elle jugeait son retour impossible. Dans une de ses premières lettres, il raconta que ses associés avaient envoyé effectivement l'aéroplane, mais qu'une compagnie maritime de Bruxelles l'avait fait embarquer par erreur à destination du Tanganyika, où on l'avait livré à la tribu dispersée des Makondo. Cette confusion entraîna une telle suite de contretemps que la seule récupération de l'aéroplane pouvait demander 2 ans. Amaranta Ursula écarta donc l'éventualité d'un retour inopportun. Aureliano, pour sa part, n'avait plus aucun contact avec le monde extérieur, hormis les lettres du savant catalan et les nouvelles qu'il recevait de Gabriel par l'intermédiaire de Mercedes, la silencieuse apothicaire. Au début, c'était des contacts bien réels. Gabriel s'était fait rembourser son voyage de retour pour pouvoir rester à Paris, vendant les vieux journaux et les bouteilles vides que sortaient les femmes de chambre d'un lugubre hôtel de la rue Dauphine. Aureliano pouvait alors l'imaginer avec son pull à col roulé qu'il n'enlevait qu'à l'époque où les terrasses de Montparnasse se remplissaient d'amoureux printaniers, dormant le jour et écrivant la nuit pour tromper sa faim, dans la chambre qui sentait l'écume de chou-fleur bouilli et où devait mourir Rocamadour. Cependant, ces nouvelles devinrent progressivement si floues et les lettres du savant si sporadiques et empreintes de mélancolie qu'Aureliano s'habitua à penser à eux comme Amaranta Ursula pensait à son mari. Et tous deux restèrent à flotter dans un univers vide où la seule réalité, quotidienne et éternelle, était l'amour. Tout à coup, comme une grande explosion dans ce monde d'inconscience heureuse, arriva la nouvelle du retour de Gaston. Aureliano et Amaranta Ursula rouvrirent les yeux, sondèrent leur âme, se regardèrent en face, la main sur le cœur, et comprirent qu'ils étaient devenus l'un à l'autre si identiques qu'ils préféraient mourir plutôt que de se séparer. Alors, elle écrivit à son mari une lettre pleine de vérités contradictoires, dans laquelle elle lui réaffirmait son amour et sa vive impatience de le revoir, en même temps qu'elle admettait comme un dessein fatal l'impossibilité de vivre sans Aureliano. Contrairement à ce qu'il pouvait escompter, Gaston leur envoya une réponse pleine de sérénité, presque paternelle, avec 2 grandes pages destinées à les prévenir contre les alternances de la passion, et un paragraphe final où il formait des vœux sans équivoque pour qu'ils fussent aussi heureux qu'il l'avait lui-même été durant sa brève expérience conjugale. Cette attitude était si imprévisible qu'Amaranta Ursula se sentit humiliée à l'idée d'avoir fourni à son mari le prétexte qu'il attendait pour l'abandonner à son sort. Sa rancœur s'aggrava 6 mois plus tard quand Gaston lui écrivit de nouveau de Léopoldville, où il avait enfin reçu l'aéroplane pour demander qu'on lui expédiât son vélocipède, lequel, parmi tout ce qu'il avait laissé à Makondo, était la seule chose qui eût gardé pour lui une valeur sentimentale. Aureliano supporta avec patience le dépit d'Amaranta Ursula, s'efforça de lui démontrer qu'il pouvait être aussi bon mari dans le bon temps que dans l'adversité. Et les nécessités quotidiennes qui les assaillirent quand ils vinrent à bout du dernier argent de Gaston créèrent entre eux un lien de solidarité qui n'était pas aussi brillant ni enivrant que la passion, mais qui leur servit à s'aimer autant et à rester aussi heureux que durant les années folles de la luxure. Quand Pilar Ternera mourut, ils attendaient un enfant. Pendant sa somnolente grossesse, Amaranta Ursula essaya d'organiser une petite industrie de colliers en vertèbres de poisson. Mais à l'exception de Mercedes, qui lui en acheta 12, elle ne trouva personne à qui les vendre. Aureliano prit pour la première fois conscience que son don des langues, son savoir encyclopédique, sa rare faculté de se rappeler sans les avoir connus des faits et des sites très éloignés, était tout aussi inutile que le coffre de vraies pierres précieuses de sa femme, qui devait valoir à l'époque tout l'argent dont auraient pu disposer en se mettant ensemble les derniers habitants de Makondo. Il ne survivait que par miracle. Bien qu'Amaranta Ursula ne se départît pas de sa bonne humeur, ni de son talent en matière de lutinerie érotique, elle prit peu à peu l'habitude de venir s'asseoir sous la véranda après déjeuner, dans une sorte de sieste éveillée et songeuse. Aureliano lui tenait compagnie. Parfois, il demeurait silencieux jusqu'à la tombée de la nuit, face à face, et se regardant dans les yeux, s'aimant en toute quiétude, avec autant d'amour qu'il s'était auparavant aimé à grand fracas. L'incertitude de l'avenir suscita dans leur cœur un retour au passé. Ils se revirent l'un et l'autre dans le paradis perdu du déluge, pataugeant dans les flaques boueuses du patio, tuant les lézards de muraille pour les accrocher à Ursula, s'amusant à l'enterrer vivante et ces invocations leur révélèrent qu'en vérité, ils avaient été heureux ensemble aussi loin que remontait leur mémoire. Creusant dans le passé, Amaranta Ursula se souvint de l'après-midi où elle était entrée dans l'atelier d'orfèvrerie et où sa mère lui avait raconté que le petit Aureliano n'était le fils de personne, parce qu'on l'avait trouvé flottant dans une corbeille. Bien que cette version leur parût invraisemblable, les renseignements leur faisaient défaut pour la remplacer par la bonne. La seule chose dont ils étaient sûrs, après avoir examiné toutes les possibilités, c'était que Fernanda n'était pas la mère d'Aureliano. Amaranta Ursula inclina à penser qu'il était le fils de Petracotes, dont elle n'avait gardé nul souvenir, hormis des histoires d'infamie, et cette supposition provoqua au plus profond d'eux-mêmes une violente crispation d'horreur. Tourmentée par la certitude qu'il était le frère de sa femme, Aureliano s'enfuit jusqu'au presbytère pour rechercher dans les archives suintantes et dévorées par les mythes quelque indice authentique de sa filiation. L'acte de baptême le plus ancien qu'il put trouver était celui d'Amaranta Buendía, baptisée en pleine adolescence par le père Nicanor Reina, vers l'époque où celui-ci essayait de prouver l'existence de Dieu à l'aide de subterfuges au chocolat. Il en vint à se faire des illusions, pensant qu'il pouvait être l'un des 17 Aureliano dont il rechercha les actes de naissance dans 4 tomes différents, mais les dates de baptême étaient trop reculées pour son âge. Le voyant perdu dans des labyrinthes de sang tremblant d'incertitude, le curé artriatique qu'il observait depuis son hamac lui demanda d'un ton compatissant quel était son nom. « Aureliano Buendía !» lui répondit-il.
« Alors ne te tue pas à chercher !»
s'exclama le curé avec une conviction formelle.
« Voici de nombreuses années, il y avait par ici une rue qui s'appelait ainsi, et en ce temps-là, les gens avaient l'habitude de donner à leurs enfants les noms des rues. »
Aureliano frémit de rage.
« Ah ! » s'écria-t-il, « parce que vous non plus, vous n'y croyez pas. »«
À quoi ?»«
Que le colonel Aureliano Buendía a livré 32 guerres civiles et les a toutes perdues, » répondit Aureliano. « Que l'armée a acculé et mitraillé 3000 travailleurs et qu'on emporta les cadavres dans un train de 200 wagons pour les précipiter à la mer. »
Le curé le toisa avec un regard de profonde pitié.
« Hélas, mon fils, » fit-il en soupirant. « Pour ma part, je me contenterai d'être sûr que toi et moi existons vraiment à l'heure qu'il est. »
Aussi bien Aureliano et Amaranta Ursula acceptèrent-ils la version de la corbeille, non qu'ils y crussent, mais parce qu'elle les mettait à l'abri de leur propre terreur. Au fur et à mesure qu'avançait la grossesse, ils se métamorphosaient en un être unique et s'intégraient chaque jour davantage à la solitude d'une maison à laquelle il ne manquait qu'un dernier souffle pour s'écrouler. Ils s'étaient repliés dans un espace réduit à l'essentiel, entre la chambre de Fernanda, où ils entrevirent les charmes de l'amour sédentaire, et le début de la véranda où Amaranta Ursula s'asseyait pour tricoter des chaussons et des bonnets de nouveau-né, et Aureliano pour répondre aux lettres fortuites du savant catalan. Le reste de la maison se rendit au siège tenace de la destruction. L'atelier d'orfèvrerie, la chambre de Melquiades, et ce qui était à l'origine les silencieux royaumes de Sainte-Sophie de la Piété, demeurèrent enfouis sous une brousse domestique où nul n'aurait eu la témérité de pénétrer. Encerclés par la voracité de la nature, Aureliano et Amaranta Ursula continuaient de cultiver l'origan et les bégonias et défendaient leur petit monde avec des lignes de démarcation à la chaux, construisant les dernières tranchées de la guerre immémoriale entre l'homme et les fourmis. Ses longs cheveux négligés, les épanchements de sang qui lui apparaissaient sur le visage, l'enflure de ses jambes, la déformation du si joli corps de belette qu'elle avait autrefois, avaient changé en Amaranta Ursula cette apparence juvénile du temps où elle était arrivée à la maison avec sa cage d'infortunée canarie et son mari captif, mais n'avait en rien altéré sa vivacité d'esprit.
« Merde !»
lançait-elle parfois en riant. « Qui aurait cru que nous finirions vraiment par vivre comme des anthropophages ?» Le dernier fil qui les reliait au reste du monde se rompit au 6e mois de grossesse, lorsqu'ils reçurent une lettre qui, manifestement, n'était pas du savant catalan. Elle avait été postée à Barcelone, mais l'enveloppe était rédigée avec une encre bleue tout à fait ordinaire, dans une calligraphie propre à l'administration, et elle avait cet air innocent et impersonnel des messages ennemis. Aureliano l'arracha des mains d'Amaranta Ursula alors qu'elle s'apprêtait à l'ouvrir.
« Pas celle-ci !» lui dit-il. « Je ne veux pas savoir ce qu'elle raconte. »
Tout comme il le pressentait, le savant catalan n'écrivit plus. La lettre étrangère, que personne ne lut, resta à la merci des mythes sur l'étagère où Fernanda avait oublié un jour son alliance, et y continua à se consumer au feu intérieur de sa mauvaise nouvelle, cependant que les amants solitaires naviguaient à contre-courant des ultimes années. Années d'impénitence et d'infortune qui s'épuisaient à vainement vouloir les faire dériver jusqu'au désert de la désillusion et de l'oubli. Conscient d'une pareille menace, Aureliano et Amaranta Ursula passèrent ces derniers mois en se tenant par la main, achevant en d'innocentes amours l'enfant qu'ils avaient commencé dans une fornication effrénée. La nuit, couchés dans les bras l'un de l'autre, ils ne se laissaient pas effrayer par les explosions sublunaires de fourmis, ni par le vacarme des mythes, ni par le sifflement continu et net que faisait entendre la poussée des mauvaises herbes dans les pièces voisines. Il leur arriva maintes fois d'être réveillés par l'affairement fébrile des morts. Ils entendirent Ursula se battre contre les lois de la création pour préserver sa lignée. Et José Arcadio Buendía cherchait la vérité chimérique des grandes inventions. Et Fernanda priait, et le colonel Aureliano Buendía s'abrutir dans des subterfuges guerriers et des petits poissons en or. Et Aureliano le second mourir à petit feu de solitude dans l'étourdissant vertige de ses fêtes. Et dès lors, ils surent que les obsessions dominantes l'emportaient sur la mort. Et ils recommencèrent à être heureux avec la certitude qu'ils continueraient à s'aimer dans leur devenir de fantômes, longtemps après que d'autres espèces animales à venir auraient ravi aux insectes ce paradis de misère que les insectes finissaient de ravir aux hommes. Un dimanche, à 6 heures de l'après-midi, Amaranta Ursula sentit qu'elle allait accoucher d'un moment à l'autre. La souriante sage-femme des gamines qui faisaient l'amour pour manger la fit se jucher sur la table de la salle à manger, monta à califourchon sur son ventre et lui fit subir de rudes galops jusqu'à ce que ses cris fussent stoppés par les beuglements d'un formidable mâle. À travers ses larmes, Amaranta Ursula put voir qu'il s'agissait d'un Buendía de la grande espèce, costaud et entêté comme les José Arcadio, avec les yeux ouverts et extra-lucides des Aureliano, qui avait tout pour recommencer cette lignée par le début et la purifier de ses vices pernicieux comme de sa vocation solitaire, car il était le seul en tout un siècle à avoir été engendré avec amour. « Il a tout d'un anthropophage, » remarqua-t-elle. « Il s'appellera Rodrigo. »« Non, » opposa son mari. « Il s'appellera Aureliano et remportera 32 guerres. » Après lui avoir coupé le cordon ombilical, la sage-femme, qu'Aureliano éclairait avec une lampe, se mit à enlever avec un linge longuant bleuâtre qui couvrait le corps de l'enfant. Ce n'est qu'après l'avoir retourné sur le ventre qu'ils remarquèrent qu'il avait quelque chose de plus que le reste des hommes. Et ils se penchèrent pour l'examiner. C'était une queue de cochon.